Bonjour à toutes et à tous, Didier sur IDFM pour un nouveau rendez-vous compte. Un rendez-vous compte spécial composé comme chaque mois avec nos chroniqueurs, désormais attitrés. Ces chroniqueurs en deux mots et chroniqueuses en deux mots aussi, qui aiment se retrouver, se concerter, se filer des idées en souriant. Et cela tombe bien puisque le sourire est justement le thème choisi en commun pour ce rendez-vous compte d'aujourd'hui. Pour commencer ce rendez-vous compte, comme chaque mois, nous retrouvons notre ami Michel Saufroy-Paré, qui nous rappelle que, comme l'affirmait Rabelais, le rire est le propre de l'homme. Eh bien, le sourire ne l'est pas moins, et même il se décline au pluriel, depuis le sourire de l'angelot à celui du vampire, depuis le sourire de Mona Lisa jusqu'au célèbre sourire Colgate, toutes dents blanches étincelantes. Rendez-vous compte.
Rire est le propre de l'homme. Si rire est le propre de l'homme, sourire ne l'en est pas moins. La souris ne sourit pas, le chat non plus, vous n'en doutez pas. Écoutez ça et vous saurez tout ou presque tout sur le sourire. Des sourires, il y en a pour tous les goûts. Des beaux, des laids, des fendus jusqu'aux oreilles épanouis, des qu'on aime et des qu'on n'aime pas. Sourire édenté du nouveau-né, sourire aux anges, sourire de l'angelot style rococo, sourire éclatant de l'enfant grandissant, sourire lumineux, pâle sourire, sourire du ravi de la crèche, sourire de l'idiot du village, sourire ébahi et béat du Bouddha, sourire du vampire, toute canine dehors, sourire éblouissant, toutes dents devant. Sourire amical, sourire commercial. Sourire engageant ou inquiétant. Sourire coincé, convenu, sourire faux cul, cul pincé. Sourire crispé, constipé. Sourire de circonstance, sourire amical, sourire commercial, sourire enjôleur, ravageur du dragueur, sourire de Mona Lisa, sourire de la Joconde, femme du monde, sourire énigmatique, juste esquissé, embarrassé, sourire un peu timide, sourire pour la postérité, pour les siècles des siècles. Amen. Ouistiti, cheese. Sourire Colgate, ultra bright. Contre les rides, remontez vos zygomatiques. Souriez, gyps. Souriez, vous êtes filmé.
Merci Michel. Maintenant, grâce à toi, nous savons tout, 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 non pas sur le zizi comme chantait Pierre Perret, mais sur le sourire, thème de notre émission d'aujourd'hui. Merci également à Michel, sans eux, pour l'enregistrement depuis votre belle côte méditerranéenne. Michel, on te retrouve le mois prochain pour assurément une nouvelle chronique, tout aussi souriante, bien entendu.
IDFM 98FM.
Alors nous sommes toujours bien sur IDFM et nous marquons une première pause musicale en accord avec notre thème d'aujourd'hui, le sourire, avec une chanson de Paul Brafort datant de 1958 consacrée au sourire le plus célèbre du monde, une chanson interprétée pour Rendez-vous compte avec humour et finesse par notre ami Thierry Leclerc, comédien, compositeur et chanteur, menuet pour la Joconde.
« C'est moi que je suis la Joconde, je suis connue par le monde. Au Louvre où la foule abonde, pour me voir on fait la ronde. Et moi faut que je me morfonde, la Joconde, la Joconde. Et moi faut que je me morfonde, la Joconde, la Joconde. C'est moi que je suis la Joconde, Léonard me crut Gironde. Quand le pauvre battant vagabonde, que voulez-vous qu'on réponde? Bien sûr, je suis pas trop immonde, la Joconde, la Joconde. Bien sûr, je suis pas trop immonde, la Joconde, la Joconde. C'est moi que je suis la Joconde, que de mauvais on m'inonde. Critiques artistes abondent en intarissables facondes. Plusieurs milliers par seconde disent la Joconde, oh la Joconde. Voyez le sourire de la Joconde, c'est le plus beau du monde, la Joconde. C'est moi que je suis la Joconde, mon sourire vient d'outre-tombe. Attendez que le vernis tombe, attendez la fin du monde. Je sourirai sous les bombes, la Joconde, la Joconde. Je sourirai sous les bombes, la Joconde, la Joconde.
Vous écoutez IDFM Radio sur le 98 FM.
Le sourire, notre thème d'aujourd'hui, renvoie inévitablement à celui de la Joconde, comme l'ont évoqué Thierry Leclerc à l'instant dans sa chanson et Michel Saufroy paraît dans sa chronique. Eh bien, c'est à un autre sourire que s'intéresse maintenant Nicolas Martin, artiste lui-même, notre chroniqueur spécialisé dans l'univers de la peinture. Le sourire d'une jeune femme, au premier plan du tableau de Renoir, le bal du Moulin de la Galette, un sourire qui relie le spectateur à la scène vivante et lumineuse, et qui fait de cette œuvre une célébration profonde des liens humains et de l'instant vécu. Fidèle à ses mises en scène autant musicales que pédagogiques, Nicolas laisse cette fois la parole à Cathy France, sa femme, qui joue le rôle d'une conférencière, mais aussi à ses propres enfants qui portent des prénoms si poétiques, Rose, Grâce et Circé, qui interprètent de jeunes visiteurs qu'il faut parfois rappeler à l'ordre. Rendez-vous compte.
Musée d'Orsay, 5 avril 2026, rétrospective Renoir et l'amour, la modernité heureuse.
Allez, allez, on s'installe sans faire de bruit. Hugo, lâche les cheveux d'Emma. On fait silence. On écoute madame la conférencière qui prend du temps pour nous. Tais-toi, Paul. Assieds-toi devant. Chut, 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 chut.
Bonjour, les enfants. Est-ce que tout le monde est bien installé? Oui? Super. Je suis Caroline Duval. Alors, on s'arrête ensemble devant ce grand tableau du peintre Pierre-Auguste Renoir, dont vous avez sans doute entendu parler, et qui a été peint en 1876, il y a longtemps. Son titre, c'est « Le bal du Moulin de la Galette ». Alors pour commencer, je vais vous demander de bien regarder cette scène. Je vous laisse quelques instants. Vous voyez? Moi, en tout cas, je vois une foule, des tables, des visages, des vêtements. et surtout la lumière du soleil qui traverse les arbres. Nous sommes à Montmartre, plus précisément au Moulin de la Galette, un après-midi d'été. Un endroit de fête très connu à l'époque. Renoir peint un vrai lieu. D'ailleurs, il existe encore et vous pouvez vous y rendre avec votre famille. Il peint un vrai lieu, donc, avec aussi de vraies personnes, dans un moment de fête.
Non, mais c'est trop beau!
Oui, c'est vrai, tu as raison. Alors maintenant, les enfants, entrons un peu plus dans le tableau et regardons comment il est construit. Même si la scène semble représenter toute une galerie de personnages dans des poses naturelles et improvisées, si vous regardez avec plus de précision, vous verrez que rien n'est vraiment posé au hasard. Ah, je vois que vous ne savez pas trop où regarder. Et c'est normal. En fait, il n'y a pas vraiment de centre au tableau. Vous êtes d'accord? Notre regard circule partout. Il passe d'un groupe à un autre. Les lignes, regardez, là, les lignes sont obliques et les corps semblent se répondre. Les masses sombres des costumes équilibrent les zones claires que voici, sur les visages, sur les robes. Le peintre, Renoir, organise tout pour que votre œil ne s'arrête jamais complètement. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Et ce n'est pas tout. Regardez la lumière. Elle n'est pas uniforme. C'est un mot un peu compliqué. Mais pour être plus clair, je dirais que ce n'est pas un projecteur. Elle est découpée par les feuilles des arbres. Vous voyez? Elle tombe en taches sur les épaules, sur les chapeaux, là, et même sur les visages, ici. Renoir peint ses taches avec des couleurs, jamais avec du noir. Est-ce que vous voyez? Regardez ici. Les ombres sont même bleutées, violacées. Et tout ça, ça nous donne une sensation de mouvement constant.
Mais madame, il a demandé à tout le monde de s'arrêter de danser pour faire le tableau?
Alors ça, c'est une très bonne question. Comment est-ce que le peintre travaillait? Eh bien, il commençait sur place, au milieu du bal, avec des croquis. Des croquis, ce sont des dessins rapides. Il observait pour capter la lumière réelle. Puis, il revenait en réalité dans son atelier. Et là, il reprenait posément les visages. Il ajustait les positions et organisait les groupes. Ce que vous voyez, en réalité, c'est une construction très précise qui donne l'impression d'avoir été saisie sur le vif. Mais elle est faite à partir de plusieurs moments du bal lors de cette soirée. Bien, maintenant, on va porter notre attention sur le premier plan. Vous voyez cette jeune femme, assise avec une robe rayée, qui semble être là sans être vraiment là. Son corps est orienté vers le tableau, mais son regard par ailleurs. Et sa bouche forme un très joli sourire, léger. Comme tous les autres personnages du tableau qui sourient d'ailleurs. Vous voyez?
Elle a l'air à l'ouest.
Sophie, surveille ton langage.
Désolée, mais c'est vrai.
Tu ne crois pas si bien dire. Et ce point est essentiel. Cette jeune femme ne regarde personne dans le tableau et ne semble pas interagir avec un autre personnage, contrairement à tous les autres. Son regard sort du cadre. Regardez. Elle sourit à quelqu'un que vous ne voyez pas. Car la fête se prolonge au-delà du cadre du tableau. Alors, je vous pose une question. Si cette personne sourit, à qui sourit-elle donc? En dehors du tableau, où se trouve ce personnage mystère?
Elle sourit à un ami qui n'est pas là?
Oui, peut-être. Prenez un instant encore. Regardez bien la direction de son regard. Elle est placée exactement là où vous êtes. Eh oui, vous pouvez être cette personne à qui elle sourit. Renoir construit cette possibilité. Il laisse un espace vide. Il ne peint pas l'interlocuteur. Il vous donne la place. Son sourire peut donc vous être adressé. Il laisse l'ambiguïté aussi car, si vous observez bien sa bouche, il n'y a pas de contour net. Le peintre utilise des touches très douces. Le sourire n'est pas figé, il reste ouvert. Et cela permet à chacun de l'interpréter. Vous savez, à l'époque, certains critiques reprochent à Renoir ce type de sujet. Ils disent qu'il peint des gens qui dansent, qui sourient et qui semblent être heureux. Et que tout cela, c'est franchement un peu léger comme sujet. Parce qu'il faut se souvenir que le contexte est difficile au niveau historique. La société est traversée par une période compliquée, avec deux grands événements au début des années 1870. La défaite lors de la guerre franco-prussienne et la Commune de Paris. Mais votre professeur vous expliquera tout cela mieux que moi à un autre moment. Revenons aux arts. Dans le domaine de l'art, le système officiel est dominé par le salon, avec un S majuscule, l'endroit où il faut être quand on est peintre. Et ce salon a toujours privilégié des sujets historiques, mythologiques ou moralisateurs, souvent traités de manière très idéalisée. Or, Renoir, vous le voyez bien, appartenait à une nouvelle génération de peintres. Et il se détachait de ce mouvement par le développement d'un courant nouveau, l'impressionnisme, dont il a fait partie. Alors, je vous pose une autre question maintenant. Est-ce que quelqu'un parmi vous peut me dire si représenter des gens heureux, c'est vraiment un sujet sans importance ?
Non, c'est important, madame. Ça rend heureux de voir des gens qui sont heureux. Quand quelqu'un me sourit, moi, j'ai envie de sourire aussi.
Oui, exactement. Et Renoir fait un choix. Il peint des moments, ce qu'il aime, et peu importe ce qu'on en pense. Des moments où les gens sont ensemble, où ils se parlent, où ils se regardent, où ils éprouvent quelque chose, comment dire, de simple et de positif. C'est simple et universel, communicatif. Finalement, il peint l'amour, la proximité et le plaisir d'être là, ensemble. Ce sourire de cette femme dont je vous ai parlé plus tôt, il devient alors très important, et vous le comprenez maintenant. Comme vous pouvez le voir, le sourire n'est pas spectaculaire, non, il montre une relation qui dépasse le tableau. On dit que le sourire chez Renoir acquiert une valeur spécifique. Il devient un signe de présence au monde, une manière de capter une qualité d'instant, si chère au peintre impressionniste. Il ne s'agit pas d'un sujet mineur ou inintéressant. Il s'agit d'un déplacement du regard artistique vers l'expérience vécue. Voilà, les enfants, quand vous reviendrez voir l'exposition qui se tient jusqu'au 19 juillet au musée d'Orsay, vous pourrez expliquer à vos parents que Renoir a fait un tableau joyeux où tout circule. La lumière, les regards et les relations. Que le tableau ne s'arrête pas à ses bords et qu'il continue avec vous, avec eux, et que le sourire de cette jeune femme établit un lien direct avec ceux qui le regardent. Il fait entrer le spectateur dans la scène et il vous invite encore en 2026, à profiter d'un morceau de joie qui s'est déroulé en 1876. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous souhaite une bonne visite. Merci à vous pour votre attention et surtout, cher maître, à bientôt dans Argument.
Merci, madame!
Merci à toi Nicolas, Nicolas Martin et surtout à Cathy France, Rose, Grâce et Circé pour nous avoir fait si bien partager ce moment de joie qui s'est déroulé il y a 150 ans maintenant, en 1876, mais qui nous sourit encore aujourd'hui. Et, chers auditeurs, ne manquez surtout pas d'aller savourer au musée d'Orsay la très belle exposition « Renoir et l'amour, la modernité heureuse » jusqu'au 19 juillet au musée d'Orsay, donc, mais un conseil, réservez vos places bien à l'avance.
IDFM, 98FM.
Voilà, nous sommes toujours bien sur IDFM à l'écoute de ce rendez-vous compte spécial chronique consacré au sourire. Nouvelle pause musicale. On va écouter une chanson de Claudio Capeo qui s'appelle tout simplement « pour un sourire.
Dehors, le ciel est sombre, comme si c'était le soir. La lumière tombe, comme si elle manquait d'espoir. Les gens s'embrassent, sûrement par habitude, pour fuir le stress, mais pas la solitude. Et moi, comme eux, je suis un peu perdu, un peu brumeux, peut-être un peu déçu. Mais dans la foule, je peux ouvrir les bras pour un sourire. Moi, je marche avec toi. Si tout s'écroule, il nous restera ça. Pour un sourire, moi, je marche avec toi. Toi, je te regarde, on ne se ressemble pas. Si je te parle, est-ce que tu comprendras? Tu viens de loin, tu sembles un peu cassé. Je ne connais rien de toi, de ton passé. Et dans ce monde, tu sembles un peu perdu, un peu frileux, peut-être un peu tendu. Mais dans la foule, je peux. C'est se comprendre, c'est par là que tout commence. On rêve l'avenir plus humain, plus animé. Pour un sourire, je peux tout imaginer. Mais dans la foule, je peux ouvrir les bras. Pour un sourire, moi je marche avec toi. Si tout s'écroule, il n'en restera ça. Pour un sourire, moi je marche avec toi. Mais dans
vous écoutez IDFM Radio sur le 98 FM.
IDFM Radio 98 FM.
Voilà, nous sommes toujours bien sur IDFM à l'écoute de ce rendez-vous compte spécial chronique consacré au thème du sourire. Alors, on retrouve notre chroniqueur à la fois, disons, humour et aussi poésie, à savoir Gérard Poêtre. Alors, tu as écrit une très très belle chronique qui m'a fait sourire. Ça tombe bien, et qu'on pourrait dire, qui pourrait s'intituler « Village à sourire réglementé », n'est-ce pas Gérard ?
Absolument, même si les villages dont je vais vous parler dans cette chronique sont bien sûr fictifs, et toute ressemblance avec des villages existants ne serait que fortuite. À l'entrée du village voisin, un nouveau panneau m'interpelle, « Village à sourire réglementé ». Annonce accompagnée d'un émoji au visage grimaçant, presque effrayant. Un peu plus loin, un autre panneau indique qu'il est interdit de sourire aux personnes de sexe féminin entre 18h et 8h du matin. Je me rends au récent bureau de régulation du sourire qui se trouve dans la mairie. Je suis reçu, si l'on peut dire, par l'IA, à laquelle je pose la question de la raison de cette nouveauté. Une voix m'explique qu'un sourire masculin vis-à-vis du sexe opposé, pourquoi opposé, peut être interprété comme un signe de mauvaise intention, voire de harcèlement sexuel, si le sourire est insistant et perçu comme allusif. Une exception toutefois, pour les mâles déconstruits, ce qui doit être attesté par un certificat officiel datant de moins de 2 ans. Je ressors un peu agacé et continue par mon parcours dans ce village, traditionnellement accueillant. Quand je croise un autre panneau, il est interdit de sourire à son supérieur hiérarchique pendant les heures de travail. Je retourne voir l'hôtesse d'accueil IA, qui me répond: ce sourire peut être interprété comme une demande d'avantage, de promotion ou de gain illicite. Face à la façade de la mairie, un autre panneau m'avait échappé. Il est interdit de sourire aux élus municipaux afin d'éviter les tentatives de manœuvre électorale ou de corruption. Et ainsi de suite sur une dizaine de panneaux. Les gens que je croise semblent respecter ces règles. Ils ne sourient pas. Ou alors ils sourient à leur portable, de manière souvent un peu niaise, comme un émoji. D'autres sourient éventuellement au trottoir pour détendre leurs lèvres. Toujours est-il que l'atmosphère semble un peu dépressive, vu la multiplication des visages contrariés, boudeurs ou mal embouchés. Pourtant, ce n'est pas dans la nature humaine. Il fallait donc éviter qu'une épidémie réglementaire ne se répande dans tous les villages. Habitant le village voisin, je ne pouvais rester sans rien faire. Je me lance alors dans l'ouverture d'une sorte d'atelier que je nomme le rendez-vous du sourire. Partant de l'idée, peut-être naïve, que le sourire est indispensable au lien social et qu'il a quelque chose à voir avec la liberté. Malgré toutes ces ambiguïtés, le sourire reste une manifestation non violente, essentiellement positive. Plutôt jouer des maxillaires que des muscles des bras. Dans nos sociétés attirées par des comportements extrêmes en tout genre, on oscille rapidement des cris d'orfraie ou fou rire. Le sourire, lui, est considéré comme trop modéré, non binaire, trop nuancé. Le sens de la nuance est pourtant indispensable. Je commence donc mes rendez-vous en dépliant le catalogue des sourires. Pas moins de 18, des plus vertueux ou plus discutables. S'ensuit la présentation d'exemples artistiques et médiatiques. Le sourire de la Joconde, à la fois ambigu, doux et mystérieux. Celui de Louis de Funès, d'une certaine hypocrisie, une méchanceté inoffensive. Je termine la séance par quelques échanges théâtraux pour les mettre en scène. Chaque participant est alors armé, si l'on peut dire, pour choisir lui-même le sourire adapté à sa situation, sans y être contraint par un règlement et des sanctions. Le 2 octobre, c'est la journée mondiale du sourire. L'atelier Rendez-vous du sourire est prêt à organiser une fête. Il y a autant de stands que de formes de sourire. Chacun peut tester son préféré avec les bienfaits et les risques que cela comporte. C'est la ruée. Par contre, le village réglementé devient désertique. Alors le maire de mon village fait une proposition. Il s'appellera désormais Villeneuve-sur-Sourire. Selon les statistiques récentes, l'espérance de vie y augmente beaucoup plus vite que dans le reste du pays et beaucoup plus que dans le village voisin.
Ah, merci Gérard. Ben écoute, je rejoins ta proposition. On va tous aller habiter à Villeneuve-sur-Sourire. Ça serait pas mal, pour y vivre mieux et plus longtemps, évidemment, avec le sourire, rendez-vous compte. Gérard, tu peux nous faire un petit peu le point sur tes récentes ou plus anciennes publications ?
Alors, la plus récente est un guide pour ceux qui voudraient se lancer dans l'écriture, sans aller à un atelier parce qu'ils n'ont pas le temps, parce qu'il n'y en a pas près de chez eux, etc., etc. Ça s'appelle « Invitation à l'écriture ». La petite originalité, parce qu'il y a plein d'ateliers d'écriture qui existent et je ne suis pas plus compétent que les autres, c'est que toutes mes idées d'exercice démarrent à partir de citations qui m'ont inspiré de romans de littérature étrangère. Pourquoi étrangère ? Pour faire découvrir aux gens des espaces littéraires qu'ils ont moins l'habitude de fréquenter que la littérature française. J'ai donc rassemblé 70 citations de 35 pays différents pour planétariser la littérature.
Waouh, ça c'est une belle expression, planétariser la littérature, pas mal, je retiens. Mais tu animes aussi, toi, un atelier d'écriture.
Oui, oui, l'atelier à Saint-Leu-la-Forêt, donc on fait 20 séances par an. Hein, la dernière sera mercredi dans deux jours. Enfin, sera le mercredi 20 mai. Et donc, cette année, il y avait 12 participants. Chaque séance comporte deux exercices, parfois trois quand on travaille un petit peu le style. Mais je ne le fais pas trop parce que je ne suis pas prof de lettres, donc je travaille plus peut-être l'imagination que le reste. Voilà.
Planétariser la littérature. Voilà une belle, un beau sujet de chronique aussi.
IDFM, 98 FM.
Nouvelle pause musicale dans ce rendez-vous compte consacré au sourire. Stéphane Escher, avec un titre tout simple, Le Sourire.
Des kilos d'emmerdement, la nuit est tombée dedans. dur mais beau temps. Dans tout ça, au coin du lit parfois, je t'ai vu sourire. Je t'ai vu sourire. Je t'ai vu déserter une armée de manchots. Je t'ai vu leur dire non et que tu avais raison. Car toi tu les aimais vraiment, tu les aimais vraiment. Et je les ai vus sourire. Et je les ai vus sourire. Pour rien, que tout cet amour-là, ce n'était pas le tien. Toi qui les avais guéris de tant de maladies, de tant de maladies. Quand ils t'ont vu sourire, quand ils t'ont vu sourire.
Vous écoutez IDFM Radio sur le 98 FM.
IDFM Radio, 98 FM.
Voilà, nous sommes toujours bien sur IDFM à l'écoute de ce rendez-vous compte spécial Sourire. Alors, on va retrouver celle qui aime faire des autopsies, boire du Pepsi et dire surtout des inepties. C'est Hélène Souhaud, notre psychanalyste, qui nous présente son œil du psy. Alors Hélène, je te vois déjà sourire en commençant cette chronique sur le sourire. Belle adéquation du geste et de la parole.
Le sourire, un geste simple, presque banal, et riche de multiples facettes. En quelques millimètres de muscles relevés, il raconte des histoires complexes, celles de nos émotions, de nos relations et même de notre santé mentale. Il existe plusieurs types de sourires. Commençons par le sourire authentique, parfois appelé sourire de Duchenne, du nom de Guillaume Duchenne, médecin français du 19e, qui a consacré une attention considérable à l'étude des expressions faciales. Le sourire de Duchenne ne trompe pas. Il engage à la fois la bouche et les yeux. Les coins des lèvres se relèvent certes, mais surtout les yeux se plissent légèrement. C'est le sourire des émotions sincères, celui qui surgit spontanément lorsque quelque chose nous touche profondément. Il est totalement spontané, par une simple répétition des expressions faciales d'autrui. Un aveugle qui ne voit pas les visages sourit autant que les autres. On peut noter que ce réflexe est purement humain. Chez les singes, montrer les dents est plutôt un signe de peur ou de soumission. Il dévoile sa dentition pour montrer qu'il est inoffensif et qu'il ne cherche pas le conflit. Mais attention, chez les gorilles, au contraire, un sourire est un défi, une invitation au combat. Si jamais vous vous perdez dans la jungle, évitez de sourire aux gorilles.
Bah d'accord, je retiens le conseil. Prochaine fois que je trouverai un gorille dans la jungle, je vais faire attention. Mais bon, à côté du sourire authentique de Duchenne, il y aurait des sourires inauthentiques, Hélène ?
Bien sûr, certains sourires sont sociaux, stratégiques, parfois même défensifs. Ce sont ces sourires qu'on offre par politesse pour apaiser une tension, masquer un malaise. Ils ne sont pas faux au sens moral, mais ils sont fonctionnels. Ils servent à réguler nos interactions.
Bon alors, quelles sont les fonctions de ce sourire qui dit autre chose que de la joie ?
Alors commençons par le sourire d'entrée en relation, car sourire c'est communiquer. Avant même les mots, le sourire envoie un message. Je suis ouvert, je ne suis pas une menace, un peu comme chez les singes, je veux entrer en relation. Je le constate chez les patients qui affichent souvent, en début de séance, un large sourire, c'est une façon de dire « ouvrons ce moment partagé ». Mais il ne préfigure pas forcément un moral au beau fixe. Il est parfois déstabilisant de voir qu'après le sourire, le patient enchaîne sur « ça va pas du tout en ce moment ».
Bon, est-ce qu'on peut se leurrer soi-même en souriant alors ?
Dis-nous. Oui. Le sourire ne se contente pas d'exprimer nos émotions, il peut aussi les influencer. C'est ce qu'on appelle en psychologie la rétroaction faciale. Le simple fait de sourire, même volontairement, peut envoyer un message au cerveau et contribuer à améliorer l'humeur. C'est comme si le corps disait à l'esprit « tout va bien » et que l'esprit finissait par y croire, au moins un peu. C'est ce sourire-là dont il est question dans le film « Pourquoi tu souris ?». Deux compères en galère, momentanément sans domicile, s'en sortent comme ils peuvent. Mais Raphaël Quenard incarne un petit voyou nihiliste et poète qui vole et ment aux besoins et sourit très peu. Alors que Jean-Pascal Zadi, qui sourit en permanence, table plutôt sur sa capacité à attendrir les gens et à faire ressortir ce qu'il y a de meilleur en eux. Même au cœur de la précarité, le personnage de Jean-Pascal Zadi se raccroche à son propre sourire pour maintenir son moral et celui de ses proches.
Bon, tu veux dire qu'il faut s'efforcer de sourire en permanence, quoi que l'on ressente ? Dis-moi.
Non. Masquer ses émotions négatives ne sert qu'à repousser et creuser plus profondément le mal-être. Il est important d'être connecté à ses émotions authentiques. Un sourire forcé, sur la durée, peut créer une dissonance intérieure. C'est ce que vivent certaines professions exposées au public, où le sourire obligatoire devient une exigence. On a importé des États-Unis le SBAM, sourire bonjour, au revoir, merci, pour le personnel en caisse dans la grande distribution. Derrière cette façade, il peut y avoir une fatigue émotionnelle, voire un épuisement. Le sourire est donc à double tranchant. Il peut être une ressource, mais aussi une contrainte. Tout dépend du contexte, de l'intention et du degré de sincérité.
C'est vrai que j'aime bien quand la caissière me sourit, n'est-ce pas ? Même si je sais que c'est un peu forcé. C'est un moment agréable de ma journée et je souris en retour. Tu me connais, Hélène.
Et oui, il ne faut pas oublier que le sourire est profondément relationnel. Un sourire donné est un sourire qui circule. C'est peut-être là sa plus grande force, sa capacité à créer du lien, à déclencher une chaîne invisible de micro-interactions positives. Dans un monde tendu, ces petits gestes ont bien un impact plus grand qu'on ne l'imagine. Alors, la prochaine fois que vous sourirez ou que quelqu'un vous sourira, prenez le temps d'y penser. Ce n'est pas juste un mouvement du visage, c'est un signal, un outil, une émotion et peut-être un petit levier de bien-être. Le sourire, en somme, est plus qu'un réflexe. C'est le miroir de notre vie intérieure, un pont vers les autres.
Ah, merci Hélène pour nous avoir expliqué si clairement que le sourire, en somme, est bien plus qu'un réflexe, je te cite, c'est un miroir de notre vie intérieure et un pont vers les autres. Alors, phrase que je note dans mon carnet des meilleures citations et pensées philosophiques. Hélène, on te retrouve le mois prochain pour ton œil du psy, souriant, mais toujours perçant.
Avec plaisir.
Le sourire vert, comme un lion levé s'enroule, Ouroboros en spire d'or, une insulaire fugitive. Tel un inconnu dans la foule, se fond au luxuriant décor, l'arche invisible à la dérive. À moitié surnageant ne coule, car c'est l'âtre de l'Athanor, la conclusion primitive. Joël Jissy.
IDFM, 98FM.
Nous sommes toujours bien à l'écoute de ce rendez-vous compte spécial chronique consacré au sourire. Nouvelle pause musicale, Marquise, je souris à la vie.
De voir ce que le Père me réserve. sans défait. Je touche un peu au succès, pourtant j'ai beaucoup souffert. Et oui, je m'en rappelle encore, c'est vrai. La galère a pris ses distances. Après tant d'années d'insistance, un soldat j'ai fait résistance. Oui, les temps durs, je les ai bravés. Chaque saison annonce des épreuves. Si je les réussis, c'est bien la preuve que je suis prêt pour le niveau supérieur. Si elle tarde, mets de côté la grande peur. Yeah. Impatient de découvrir
l'entièreté du cadeau.
Que l'éternel fasse tout tomber, même sa pluie de là-haut. Reconnaissant pour ce jour nouveau qui frappe ma porte. Nanana, impatient de voir ce que le Père me réserve. Père me réserve. Même si hier les opportunités m'ont échappé.
IDFM, 98FM.
Bonjour chers fidèles de Rendez-vous Compte, moi c'est Naé, je suis passionné de foot et je vous propose pour ma première chronique de traiter le thème de l'émission d'aujourd'hui, le sourire, en particulier lors des grandes compétitions internationales. Et ici, on s'intéressera à la Coupe du Monde de football. Aujourd'hui, on parle d'un mot simple, mais qui peut dire énormément de choses, le sourire. Parce qu'au fond, un sourire, ce n'est pas seulement une expression sur un visage. C'est un souvenir, une émotion, un instant qui reste gravé. Et quand on parle de football, et encore plus de Coupe du Monde, alors là, les sourires deviennent universels. On a tous un sourire lié à une Coupe du Monde. Pour certains Français, impossible d'oublier ce sourire apparu malgré la défaite en finale en 2022, parce qu'on a vu quelque chose d'historique. Kylian Mbappé réalisait un triplé en finale, un exploit presque irréel. Pendant quelques minutes, tout un pays s'est mis à rêver. Pour les Brésiliens, il y a sûrement ce sourire qui revient lorsqu'on évoque 2002, le sourire de Ronaldo Nazario après avoir soulevé la Coupe du Monde. Lui qui revenait de blessures terribles, lui que certains pensaient fini. Et finalement, 8 buts, une Coupe du Monde et une renaissance. Pour les Argentins, comment ne pas penser au sourire de Lionel Messi pendant des années? On disait qu'il lui manquait cette Coupe du Monde pour entrer définitivement dans l'histoire. Et puis ce soir de décembre 2022, ce sourire-là avait quelque chose de différent. Ce n'était pas seulement celui d'un joueur, c'était celui d'un enfant qui réalisait enfin son rêve. Et puis, il y a le Portugal, il y a ce sourire qu'on a vu pendant plus de 20 ans sur les terrains, celui de Cristiano Ronaldo, un sourire qui racontait la confiance, le travail, parfois même la revanche. Parce qu'une Coupe du Monde, ce n'est pas seulement gagner, c'est aussi laisser une trace. Et finalement, c'est peut-être ça, la magie du football. Pendant 90 minutes, on oublie un peu tout, le travail, les problèmes, le stress, les mauvaises nouvelles. On regarde un ballon rouler, on espère, on crie, on saute. Et parfois, on sourit sans même s'en rendre compte. Et maintenant, les regards se tournent vers la Coupe du Monde 2026. Parce qu'une Coupe du Monde, ce n'est pas seulement ce qu'on a vécu, c'est aussi tout ce qu'on imagine avant qu'elle commence. On se projette déjà. On se demande, est-ce que Kylian Mbappé va encore nous faire rêver ? Est-ce qu'il va écrire une nouvelle page de sa légende, après son triplé historique en finale il y a quelques années ? On se demande aussi si Ousmane Dembélé, élu Ballon d'Or, va montrer, sur la plus grande scène de toutes, pourquoi il mérite ce statut. Parce qu'une Coupe du Monde, c'est là où les grands joueurs deviennent parfois des légendes. On imagine déjà des stats qui explosent, des buts à la dernière minute, des surprises, des outsiders qui feront tomber les géants. Peut-être qu'un jeune joueur inconnu aujourd'hui deviendra demain le nouveau héros d'un pays entier. Peut-être qu'un enfant regardera cette Coupe du Monde depuis son canapé, les yeux brillants avant de sortir jouer au ballon, juste après le match, en rêvant de faire pareil un jour. Parce qu'au fond, une Coupe du Monde, ce n'est pas seulement des statistiques, des trophées ou des résultats. C'est une machine à émotions, une machine à souvenirs, et surtout une machine à sourire. Et dans le monde où parfois on oublie un peu trop de sourire, le football a encore cette capacité incroyable, pendant quelques secondes, faire sourire la planète entière.
Écris mon nom en bleu, écris mon nom en bleu. Note-le, écris mon nom en bleu, écris mon nom en bleu, écris mon nom en bleu. Note-le, écris mon nom en bleu. 1. Défendre les lignes et les frères d'armes. Et si ça peut le faire, ça peut faire date. Ça vient des campagnes et des quartiers. Personne va s'écarter, le camp sera gardé. Chaque blase est lourd de sens. Ces jours de chance, mélange meilleur d'un goût d'ailleurs et d'un goût de France. Millions de supporters quand je pose. Note mon nom sur ta liste et sur mon maillot dans le dos. Écris mon nom en bleu, écris mon nom en bleu. Note-le, écris mon nom en bleu. Écris mon nom en bleu, écris mon nom en bleu. Note-le, écris mon nom en bleu. 1. La terre du milieu, c'est le cœur du jeu. Ceux qui ont grandi dans les flammes n'ont pas peur du feu. 2 étoiles gravées dans le roc, mais là c'est une autre histoire sur les routes de l'Europe. Oh, bagaille, pas de faille, qui dit qu'on n'est pas de taille. Aucune prétention, juste assumée dans la bataille bleue. Millions de supporters quand je pose, note mon nom sur ta liste et sur mon maillot dans le dos. Pour écrire mon nom en bleu, écris mon nom en bleu. Note-le, écris mon nom en bleu, écris mon nom en bleu, écris mon nom en bleu. Note-le, écris mon nom en bleu. 1. À l'attaque, jamais plié. Même si elles sont loin, on entend nos foules crier. Bien sûr qu'il faut prier. L'histoire est superbe, mais c'est pas la guerre des étoiles. On est bien sur terre, unis, unis, bénis ou punis. Faites vivre les rêves, qu'on s'élève, qu'on soit unique. Unis comme millions de supporters quand je pose. Note mon nom sur ta liste et sur mon maillot dans le dos. Je rêve que t'écris mon nom en bleu. Écris mon nom en bleu. Note-le, écris mon nom en bleu. Écris mon nom en bleu. Écris mon nom en bleu. Note-le, écris mon nom en bleu. Écris mon nom en bleu. Écris mon nom en bleu. Note-le, écris mon nom en bleu. Écris mon nom en bleu. Écris mon nom en bleu. Note-le, écris mon nom en bleu. 1.
Voilà, je suis heureux d'avoir eu l'occasion de vous prouver que sourire et sport de haut niveau n'était pas impossible à concilier, comme on se l'imagine souvent. Heureux aussi d'intégrer l'équipe des chroniqueurs de Rendez-vous Compte. C'était Naé et je vous retrouverai avec plaisir lors des prochaines émissions sur IDFM. À bientôt.
Vous écoutez IDFM Radio sur le 98FM.
IDFM Radio, 98FM.
Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Marion Quevillier et je suis thérapeute holistique. Sur cette chaîne, je vous partage du contenu autour du mieux-être physique, émotionnel, mental et spirituel. Aujourd'hui, nous sommes dans la playlist « Contes inspirants pour petits et grands », mais c'est un poème que j'ai envie de vous partager. Un poème qui définit très bien la puissance d'un sourire. Ce poème, je le connais par cœur depuis que je suis enfant et je l'aime profondément. Il en existe plusieurs versions, mais je choisis de vous présenter celle que je préfère, celle que j'ai apprise. Je vais tout d'abord vous le lire, puis je vous ferai défiler le texte si vous souhaitez l'écrire, et pourquoi pas l'afficher en décoration dans une pièce de votre maison. Je vous souhaite une bonne écoute. Un sourire. Un sourire ne coûte rien, mais rend les cœurs heureux. Il enrichit ceux qui le reçoivent, sans appauvrir ce qui le donne. Il ne dure qu'un instant, mais son souvenir est parfois éternel. Personne n'est assez riche pour pouvoir s'en passer. Personne n'est trop pauvre pour ne pas le donner. Il crée le bonheur au foyer. Il est le signe sensible de l'amitié. Un sourire donne du repos à l'être fatigué, rend du courage au plus découragé. Si quelquefois tu rencontres une personne qui ne te donne pas le sourire que tu mérites, sois généreux, donne-lui le tien. Car nul n'a autant besoin d'un sourire que celui qui ne peut en donner aux autres. Raoul Follereau.
IDFM, 98FM.
Voilà, dans ce rendez-vous compte spécial chronique consacré au sourire, nouvelle pause musicale, une chanson d'Emmanuel Moir qui s'appelle, devinez, le sourire.
On a toujours le droit de douter, décevoir ceux qui sont restés et baisser les bras qu'on levait sans foi longtemps.
Yeah.
IDFM, 98FM.
Dans 3 minutes, j'entre dans le livre des records. J'aurai gardé le sourire pendant plus de 68 heures, sans interruption. Et ça fait mal. Pourtant, c'est pas faute de m'être entraîné. Je me suis entraîné beaucoup, en cachette. Parce que je suis, en civil, huissier de justice. Alors j'ai dû m'entraîner en cachette parce que la première chose qu'on nous apprend à nous, les huissiers de justice, c'est faire la gueule. Plus que 2 minutes 30. Et ça fait de plus en plus mal.
Vous écoutez IDFM Radio sur le 98FM.
Voilà, avant de terminer cette émission, ce rendez-vous compte spécial chronique consacré au sourire, je voudrais passer une annonce qui nous vient de la Maison Rose de Valran à Auvers-sur-Oise, dont nous avons déjà reçu l'année dernière Ulrich, parce que la Maison Rose de Valran, qui est une maison artistique de grande notoriété, présente pour la deuxième année les estampes auversoises. Voilà, petite annonce.
À 30 km de Paris, il existe un village où l'art est une tradition vivante, Auvers-sur-Oise. Et au cœur de ce village, une maison rose a une belle histoire à vous raconter. En 1870, le peintre d'Aubigny en fait son atelier d'été. Il y accueille ses amis, Monet, Cézanne, Pissarro, Corot, Berthe Morisot, et la maison rose devient un foyer d'artistes bouillonnants, généreux, uniques. Un siècle et demi plus tard, l'artiste Valran lui redonne vie avec la même passion. À sa disparition en 2021, c'est son frère Ulrich qui crée l'association La Maison Rose de Valran pour que rien ne s'arrête. Sa mission ? Continuer. Accueillir, rassembler, partager, faire vivre cet endroit unique avec les valeurs qui ont toujours été les siennes. Solidarité, créativité, ouverture. Et ça marche ! La première édition des estampes auversoises a accueilli plus de 2000 visiteurs en 2025. 20 graveurs, 8 nationalités, un succès unanime. Alors forcément, on remet ça. Du 29 mai au 14 juin, c'est la deuxième édition. 20 graveurs de renom, plusieurs pays représentés, toute la richesse des techniques de l'estampe réunies en un seul lieu. Et il y a plus, le vendredi 5 juin à 19h, une causerie avec Wouter van der Ven, grand spécialiste de Van Gogh, sur le docteur Gachet et sa passion pour la gravure. Puis le samedi 13 juin à 19h, une conférence sur Auvers et ses graveurs, par l'atelier généalogie de la médiathèque. Les deux événements sont gratuits, sur réservation. La Maison Rose se trouve au 59 rue d'Aubigny à Auvers-sur-Oise. La gare est à 10 minutes à pied et vous trouverez un parking gratuit à 100 mètres. L'exposition est ouverte tous les jours de 10h à 18h jusqu'à 19h les week-ends. L'entrée est libre. Venez nombreux, la Maison Rose vous attend les bras ouverts.
Vous écoutez IDFM Radio sur le 98FM.
IDFM Radio, 98FM.
Ainsi se termine notre rendez-vous compte spécial chronique consacré ce mois-ci au thème du sourire. Une émission à retrouver en podcast sur le site d'IDFM avec toutes les références de nos chroniqueurs et la playlist. Alors merci Naé pour la technique. Et merci Michel, Nicolas, Thierry, Gérard, Hélène. On vous retrouvera avec grand plaisir le mois prochain. Et quant à moi Didier, je donne rendez-vous à tous les auditeurs la semaine prochaine, même heure, même adresse pour un nouveau numéro de rendez-vous compte sur IDFM, évidemment. Et en attendant, je vous retrouve également dimanche matin dans la matinale de Mehdi pour ma chronique Nec plus Ultra consacrée aux expressions issues du latin et de la mythologie grecque. À bientôt.